variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors, destination au pluriel, ce mois-ci, Écosse et Montana, pas vraiment de rapport, si ce n'est que nous avons choisi de vous parler de deux romans parus aux éditions Rivage, en Rivage noir bien sûr. Le premier, Un bon indien est un indien mort, nous emmènera du côté d'une tribu indienne pied noir et c'est signé par un auteur lui-même originaire de cette tribu, Stephen Graham Jones. Ensuite, Rien que le noir, ce qui ne peut que nous convenir comme programme et comme titre de roman, puisqu'il s'agit bien de cela, et c'est une double signature, nous y reviendrons. William McKay Sylvanet et Ian Rankin. Là, nous sommes en Écosse avec deux des plus importants auteurs de noir écossais, Scottish Noir, et ça tombe bien puisque nous évoquerons aussi le dernier numéro de la revue 813, le numéro 144, tout frais sorti de l'imprimerie, dont le dossier est consacré au Scottish Noir. Hervé, destination donc le Montana pour débuter cette émission, du côté du comté de Glacier, où est implantée une réserve indienne pied noir, Blackfeet, une tribu plus particulièrement les Picunis. Alors un coin comme on en voit dans les westerns avec des bisons par milliers, pourtant les jeunes indiens...
Un titre aussi très, oui, très référentiel, puisque c'est enfin le titre français et la démarcation du titre original qui est The Only Good Indians, qui se complète par The Dead Indians, c'est-à-dire les seuls bons indiens. Enfin, un bon indien est un indien mort, qui est la formule qu'on prête au général Sheridan, qui, ce soit lui ou pas, mais qui en tout cas est un général qui s'illustra dans les guerres indiennes par une politique très brutale, le massacre de milliers de bisons qui étaient évidemment la nourriture des Indiens. Enfin bon, voilà donc.
Oui, un titre.
On est marqué western, oui, tout à fait.
Voilà, un titre qui annonce la couleur, tu l'as dit, écrit par un auteur lui-même originaire de tribu indienne, les Picunis, Blackfeet, pieds noirs, dont il va mettre en scène quelques jeunes représentants.
C'est intéressant, alors... ça d'ailleurs, parce qu'on est en train de, et puis on va rentrer dans le livre, mais on est en train, on est à la, justement, il y a comme ça, ces dernières années, des découvertes d'auteurs amérindiens. Je me souviens qu'on avait parlé ici il y a quelques mois de Justice indienne,
tout à fait,
chez Gallmeister, je crois, qui était d'un écrit par David S.K. Wambly-Wayden, qui était un membre de la nation Lakota, enfin. Et puis il y a une série d'écrivains dont peut-être un des plus célèbres ces dernières années, c'est Tommy Orange, qui est un écrivain américain arapaho et cheyenne qui a écrit « Ici n'est plus ici », enfin, voilà, enfin, il y a comme ça des... C'est assez passionnant d'avoir...
Ouais, une littérature qui vit, quoi, et on en a à nouveau un témoignage avec ce roman, hein. Donc, les jeunes Indiens de cette réserve ne poursuivent plus le bison, mais le caribou, et encore, en essayant de ne pas se faire surprendre, hein, par les gardes chargés de faire respecter l'interdiction de cette chasse. Alors, on va suivre quatre jeunes Indiens, Gabe, Ricky, Cass et Lewis, et on comprend très vite qu'ils n'y sont pas allés de main morte avec un troupeau de caribou, hein, dans une chasse qui a tourné au massacre, et on les retrouve une dizaine d'années plus tard. Enfin, on va en retrouver que trois, puisque entre-temps, Ricky, qui lui était parti, avait quitté la réserve, était parti bosser dans le Dakota, a fait l'objet d'un article dans le journal local, en référence au titre du roman, un Indien tué lors d'une dispute devant un bar, et ça commence, le roman commence, hein, par ce tragédie, cette dispute qui finit mal, un massacre plutôt, et ce massacre donne une bonne idée, Hervé, de ce qui va constituer la trame de ce roman, parce que Ricky, il a quelques bières au compteur et il se voit poursuivi par un vieil élan aussi imbibé qu'agressif. Alors on comprend vite que Ricky est halluciné, et ça va mal se terminer avec les gars du coin qui n'apprécient pas de voir cet Indien, donc complètement halluciné, mettre le bazar dans le parking du bar. Et c'est la trame du roman, hein, le fait que ces jeunes Indiens soient hantés par ces caribous qu'ils ont massacrés.
Bah, ils sont hantés par effectivement ce souvenir assez terrifiant. C'est bien aussi de planter ça. Enfin, tu parles, voilà, ce bar là qui est rempli de ce que on appelle des roughnecks, c'est-à-dire des ouvriers, oui, qui travaillent sur les plateformes de forage, comme lui est allé faire. Et ce qui est fort aussi avec ça, c'est que c'est à la fois un roman, Un bon Indien est un Indien mort. C'est à la fois un roman social, enfin voilà, qui donne à voir un plus qu'un envers d'une Amérique qui est tout sauf une Amérique de rêve. Ça fait revisiter aussi la culture indienne qui est à la fois oubliée, volontairement gommée, et en même temps qu'il y a des réminiscences présentes. Et puis il y a un côté un peu, il y a une dimension assez, assez fantastique dans ce roman noir, qui fait un peu penser à quelqu'un dont d'ailleurs se réclame l'auteur, hein, Stephen Graham Jones. J'ai vu que dans les remerciements de fin de roman, il rend un bel hommage à Joe Lansdale, qui lui-même commença avec des livres comme Le Drive-In ou comme ses nouvelles Texas Trip, en mêlant du roman noir, du polar, mais aussi du gore, une démesure du récit qu'on retrouve dans celui-ci.
Alors on va suivre plus longuement dans ce roman le parcours de Lewis, un des quatre, hein, qui a aussi quitté la réserve. Il se dit, Lewis, qu'il mériterait, je cite, une grosse récompense pour avoir vécu jusqu'à 36 ans sans jamais s'être arrêté dans un drive pour commander un burger et des frites, en échappant au diabète, à l'hypertension, à la leucémie, et il mériterait d'autres récompenses pour avoir évité tous les accidents de voiture, la prison et l'alcoolisme qui figuraient sur son carnet de balles culturelles. Et ça, c'est bien écrit. Lewis vit, lui, avec une blanche, avec Peta. Il bosse à la poste, il s'occupe de sa maison, bref, rien à signaler, jusqu'au jour où, en changeant une ampoule, il voit au plafond une jeune femelle caribou couchée sur le flanc. Donc voilà, à son tour, il va être hanté par ce troupeau de caribou massacré, et ça va aussi très mal se terminer. Et Hervé, hein. Donc c'est vrai que Alors, ce roman est présenté en quatrième de couverture comme un roman d'horreur psychologique, ce qui pourrait faire peur. Personnellement, c'est pas trop le genre de littérature qui m'intéresse, et même refroidir un peu les envies de découvrir un roman, au titre, nous l'avons dit, qui annonce la couleur, écrit par un auteur lui-même originaire de la tribu. Mais il faut bien sûr dépasser cette catégorisation qui est finalement discutable, je pense, pour aller voir, tu l'as dit, ce qui se passe du côté de la littérature amérindienne actuelle, parce qu'on est vraiment, là-dedans, je pense, Hervé.
Oui, là-dessus, mais il y a aussi, moi, les qualificatifs d'horreur et de terreur ne me font pas peur, si j'ose dire, mais il y a quelque chose qui fait aussi penser à un certain nombre de romans d'un écrivain que, pour ma part, j'estime beaucoup, qui est le très célèbre Stephen King, c'est-à-dire c'est tout sauf de la... Enfin, ce serait juste une incompréhension de faire, paraître ces écrivains comme juste des écrivains d'un suspense terrifique qui serait des page-turner qu'on lit uniquement pour frissonner bien au chaud chez soi, parce que derrière cette mise en scène qui utilise évidemment du noir, du fantastique, des éléments du roman de terreur, il y a aussi toute une mise en scène, tout un coup de projecteur porté sur l'Amérique, et c'est pour ça que c'est des romans passionnants. Et alors, en plus, avec, comme tu le dis, avec Stephen Graham Jones, il y a aussi il y a ce regard sur l'Amérique et aussi le fait que elle soit malade de son matérialisme, de son oubli de tout ce qui a formé la culture du territoire américain, et donc évidemment les cultures amérindiennes qu'il n'est pas question de renier, ou alors on renie le tout, quoi.
Et aussi, comment ne pas considérer le paranormal, puisqu'il s'agit de cela, comme normal quand on vit dans un territoire aussi hanté par les massacres, à commencer par ceux des ancêtres, de nos quatre tueurs de caribous. En tout cas, donc, alors je le disais, le roman d'horreur psychologique, ça peut peut-être faire fuir quelques lecteurs, surtout pas.
C'est pas du cozy crime, ça,
voilà,
on est sûr.
Voilà,
sûr,
oui. Et donc, un roman qui ne devrait pas faire peur, sauf peut-être aux chasseurs, quand même. Mais c'est un roman qui fait bien sûr, qui fait réfléchir à la question amérindienne d'hier et d'aujourd'hui, et au travers d'ailleurs d'une étonnante focale animiste, finalement.
Qui peut nous dérouter un peu, parce qu'elle décale par rapport à une culture occidentale. Mais qui, comme on le sait, n'est pas la seule.
Voilà. Alors, et peut-être pour conclure, parce que j'ai évoqué la quatrième de couverture, les propos de l'éditeur par rapport à ce roman, je lui laisse le dernier mot à l'éditeur, parce qu'il évoque, et moi je partage complètement cet avis, un portrait poignant de la jeunesse amérindienne, Hervé.
Absolument. Ça, c'est ce roman-là, ceux que j'ai cités tout à l'heure, comme Ici n'est plus ici, Tommy Orange, par exemple, ou Justice indienne, qu'on avait chroniqué, etc. C'est des romans qui parlent de ça, et qui est dont on sait que c'est quand même un drame actuel de cette Amérique du Nord. Oui.
Voilà, donc Un bon indien est un indien mort, de Stephen Graham Jones, aux éditions Rivage, collection Rivage Noir. We'll be right back. écoutez Radio PFM Variation en noir. Hervé, c'est cette pause musicale, ce morceau, ça te dit quelque chose ?
À un moment, j'ai pensé à Rory Gallagher, mais non. Donc, je ne sais pas. En fait, je donne ma langue au chat.
Bon, ça aurait pu être Rory Gallagher. Nazareth, un groupe écossais. Hein, donc,
Oui, parce que Rory Gallagher, il était irlandais.
Voilà, c'est ça. Donc, donc, pour illustrer la deuxième partie de notre émission, voilà, je vais aller chercher un petit peu musique rock écossaise, et je me suis rendu compte
On va peut-être en reparler, mais nul doute que ça plairait à Alan Parks, qui est un des auteurs actuels du roman noir écossais.
Tout à fait.
Voilà.
Et donc,
les livres sont truffés de rock et qui adore ça. Ouais.
Et en plus, là, le disque, il passe à peu près bien. Pourtant, c'est un vinyle que j'avais pas trop rayé. Hein. Pourtant, je l'ai beaucoup passé dans les années 80. J'étais amateur de ce groupe et je n'avais pas fait le lien. Pour moi c'était un groupe anglais, et donc là je viens de me rendre compte que ils sont écossais. Et le morceau c'est Woke Up This Morning, extrait de leur troisième album Razamanaz, qui est sorti en 1973. Et nous allons parler rapidement du bouquin de McIlvaney et Ian Rankin qui se déroule à Glasgow en Écosse, donc en octobre 72, donc on est complètement raccord au niveau du timing. Un mot quand même sur Nazareth, c'est un groupe qui a été fondé en 1968, la même année que, alors attention, hein, Led Zeppelin, Black Sabbath et Deep Purple. Et d'ailleurs, c'est le bassiste de Deep Purple.
Des groupes un peu connus, en fait.
Voilà, et c'est le bassiste de Deep Purple qui produit ce disque-là, Razamanaz.
C'est d'autant plus amusant tout ça, parce que tout ça se raccorde très bien, parce que Alan Parks, dont je parlais tout à l'heure, et dont Bobby Marks Forever vient de remporter le prix Mystère de la critique, Alan Parks, il situe en fait tous ses romans l'année 1973, justement, qui est, dit-il, avec une espèce de clin d'œil, une année où on dépasse la période hippie et on annonce la période punk, et c'est ce qui l'intéresse. Voilà.
Alors j'ai hésité, parce qu'il y a un disque précédent de Nazareth qui était sorti en 71 ou 72, qui lui était largement teinté de musique traditionnelle écossaise et qui notamment avec un morceau 1692 faisait référence à un moment historique important pour les Écossais, le massacre de Glencoe. Alors on va pas faire d'histoire, mais pour vous dire que donc voilà, on se plonge dans cette Écosse, hein, qui fait l'objet du dossier du dernier numéro de la revue 813. Mais avant d'en venir au dossier, un mot sur... Oui, et puis toujours par rapport à Nazareth, c'est aussi l'occasion de saluer son chanteur Dan McCafferty qui est mort en novembre dernier. Voilà, donc double...
Je voudrais aussi ajouter un mot parce que ça va faire décidément le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on va évidemment en parler, le Scottish noir, le roman noir écossais, ça n'est pas juste une petite branche qui serait secondaire de la branche polar de Grande-Bretagne. Ça a une autonomie et une identité forte, mais c'est aussi qu'il y a un grand ancêtre de la littérature écossaise et qui a à voir avec le roman noir et aussi un peu un roman légèrement terrifique qui est Robert Louis Stevenson et son Dr Jekyll et Mr Hyde.
Voilà, oui, quand on lit le dossier, il y a cet ancêtre, mais il y en a un autre aussi, hein, c'est Sherlock Holmes.
Évidemment. Voilà,
hein, puisque Conan Doyle, lui aussi, était écossais. Alors, un mot, rapidement, parce que c'est quand même un livre important. Alors déjà, son titre, Rien que le noir, un très joli titre. Donc c'est un roman de William William McIlvaney, qui est l'auteur référence, on y reviendra, hein, du Scottish noir, mais un roman inachevé et finalement qui a été récemment donc terminé par Ian Rankin, l'autre pointure du roman noir écossais. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que le premier est, lui parle de, et situe ses romans à Glasgow, qui est plutôt la cité ouvrière, la ville qui est plus arbolade, comme diraient les Américains, une cité de dur à cuire avec bon une criminalité importante, alors que Ian Rankin, lui, c'est Édimbourg, la capitale un peu touristique, voilà, une vitrine. Une vitrine de l'Écosse différente et en fin de compte, bon, on lit ce roman, on voit pas de différence, hein, on sent pas du tout à partir de quand
il y a un héritage de Jekyll et Hyde, d'ailleurs, parce que effectivement, comme tu le dis très bien, dans la si on stéréotype un peu les choses, effectivement Glasgow c'est la ville pauvre, la ville criminogène, la ville de bas-fonds et tout ça. Et Édimbourg serait la belle vitrine touristique. Alors, comme Rankin le dit, évidemment, Édimbourg, c'est une jolie ville, ça c'est certain. Mais en même temps, depuis son premier roman, je crois, qui s'appelait L'étrangleur d'Édimbourg, il n'a eu de cesse, avec son personnage de John Rebus, de décrire la schizophrénie de cette ville et d'en explorer aussi les zones d'ombre. Ouais.
Alors bon, ce roman aussi, rien que le noir, alors pour moi, il m'a permis de combler une lacune, hein, parce que, bon, j'avoue, je ne connaissais pas Laidlaw, je n'avais pas lu, hein, les romans de William McIlvaney qui met en scène ce policier, hein, de Glasgow, complètement étonnant, surprenant, et donc ça permet de découvrir ce flic qui est vraiment pas un flic comme un autre. Et d'ailleurs, à la fin du roman, il y a une description de Laidlaw par un de ses collègues qui résume bien, je trouve, le personnage, hein. Donc ce collègue explique, en parlant de Laidlaw, c'est un pion isolé dans un monde de production de masse, et surtout, donc, il dit, pas un flic qui est aussi un homme, mais un homme qui est aussi un flic et emporte ce poids sur ses épaules partout où il va. Donc c'est vraiment quelqu'un à découvrir, Hervé Laidlaw.
Ah ben complètement, faut commencer avec Laidlaw, puis après il y a les papiers de Tony Veitch et Étrange loyauté, Rivage noir les a republiés il y a peu de temps, et William McIlvaney, qui est évidemment beaucoup moins connu que Ian Rankin, parce que Rankin est devenu c'est le symbole et du pot qui mêle le polar et la littérature écossaise. Quand on va en Écosse, on trouve des piles de livres dans le moindre supermarché, mais William McIlvaney, c'est en fait la matrice du tarpan noir. C'est un maître incontestable, incontournable, et d'ailleurs Ian Rankin, comme plus récemment Alan Parks dont je parlais ou d'autres, lui rendent tous un grand hommage, parce que il avait commencé, je crois, avec un roman qui s'appelait Dodgerty, où il parlait d'une ville usine d'Écosse, Greysnock. Il parlait de
une ville minière, une ville minière aussi.
Oui, c'était une ville minière, absolument. Il parlait de la vie des mineurs, lui-même était issu de ce milieu familial, et c'était un roman social d'une très grande force. Et puis, il a continué, je crois qu'il disait c'est François Guérif qui a découvert William McIlvaney et qui a commencé à le publier, et il voilà ce que lui disait McIlvaney. Après avoir écrit Dodgerty, j'ai été affamé de civilisation contemporaine. Le personnage principal de Dodgerty est un homme qui survit à la pauvreté, qui lutte pour garder une sorte de dignité et de force morale malgré sa situation. Et Laidlaw est, je crois, comme une extension de ce personnage. C'est un homme qui, dans l'univers contemporain, essaie de maintenir un semblant de moralité dans un cadre et des circonstances fort difficiles. Il lui disait ça dans une interview en 1984, et McIlvaney a, voilà, dans ses romans noirs, a continué à se tenir à cela. Et comme tu l'as très bien dit, son inspecteur Laidlaw, il est avant tout un homme qui est aussi un flic. Il opère donc à Glasgow. Il ne cesse d'en scruter l'évolution et ce qui s'y déroule de sombre. Et c'est un homme complexe, un homme dépressif, un homme qui boit sec, mais pas au point que cela soit un cliché, un stéréotype uniquement pour faire genre. Il lit Albert Camus, il lit Kierkegaard, et il est tout le temps tenaillé par le doute. Il essaie de comprendre pourquoi il y a tant de misère, pourquoi il y a tant de haine, pourquoi.
Oui, voilà. Et sans préjuger, ce qui, le lien est établi, hein, à la fois dans le dossier et à d'autres endroits, avec notamment un personnage comme le commissaire Maigret.
Oui, absolument. Il y a des tas de points communs, et il y a un bel article dans la revue 813 de Roger Elias qui développa le festival Le Goéland Masqué en Pays Bigoudin, en Bretagne, et avec qui j'ai eu, en fait, qui m'a fait le grand honneur en 2015 d'animer une rencontre avec justement William McIlvaney, qui devait, triste chose, décéder quelques mois plus tard. Et c'était bien de faire découvrir ce très grand auteur à un public qui ne le connaissait pas et qui s'est un peu précipité sur ses livres.
Oui, parce que c'est vraiment il faut lire, hein, McIlvaney. Alors on peut signaler que les trois, la trilogie Laidlaw là sur son flic, oui, est reparue, hein, en poche Rivage Noir.
Oui, en poche Rivage Noir, oui.
Parce que sinon ils étaient sortis au tout début de la collection, hein, dans les 20 premiers numéros, je pense. Hein,
complètement. Et donc, c'est vraiment une des belles découvertes de François Guéris. Oui.
Donc à lire absolument Un bon Indien est un Indien mort, je le répète, de Stephen Graham Jones sur Rivage Noir. Rien que le noir, William McIlvaney, Ian Rankin en Rivage Noir aussi. Et puis donc le dernier numéro de la revue 813, le numéro 144, avec un dossier consacré au Scottish Noir. C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Au revoir à toutes et tous, et bonne lecture.
Rendez-vous dans un mois.